Trois invités des Résonances et Ossip Mandelstam à l'occasion de la publication de ses œuvres complètes avec le poète et patient traducteur Jean-Claude Schneider, l'universitaire Marc Weinstein et le poète Emmanuel Laugier.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Jean-Claude Schneider, Marc Weinstein, Emmanuel Laugier, bonjour, bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Pour cette bonjour. Heure toute consacrée au poète russe Ossip Mandelstam, Jean-Claude Schneider ici à Paris, à la Maison de la Radio, Marc Weinstein et Emmanuel Laugier depuis Aix-en-Provence, par les bons soins de France Bleu Provence. Le lecteur, lui, pourra enfin embrasser l'œuvre de Mandelstam d'une seule voix, puisque paraissent aux éditions Le Bruit du Temps et La Dogana les œuvres complètes, prose et poésie, traduites par Jean-Claude Schneider. Traduction donc du poète russe, né en 1891 à Varsovie, mort en 1938, broyé par son siècle chacal, disait-il, un mort épuisé, affamé, privé de publication, privé de poèmes, près de Vladivostok, alors qu'il était condamné à 5 ans de travaux forcés. Mandelstam donc, poète, essayiste, théoricien, celui qui tendait l'oreille pour écouter la germination et le bruit du temps. Mythe de la littérature russe du XXe siècle, celui que Brodsky appelait l'Orphée moderne, l'intraitable de Philippe Jacotet, qui le traduisit aussi. Mandelstam, pour qui la poésie vous réveille en plein milieu du mot, l'auteur du Timbre d'Égypte, du Voyage en Arménie, de l'Enragé quatrième prose, mais aussi de dizaines d'articles et textes théoriques, et bien sûr, de poèmes, des Carnets de Voronezh, de Tristia, du Livre de 1928, rassemblés en un volume distinct dans la présente édition. Question du jour, donc, comment Mandelstam vint à vous trois, ce que vous y entendez, lui qui écoutait le bruit du temps, et ce qu'il vous fit, à vous trois, qui le lisez depuis si longtemps, à vous Emmanuel Laugier, poète, essayiste, critique, notamment pour le Matricule des anges, qui lui consacrait dans son dernier numéro, comme ça tombe bien, un copieux dossier. À vous, Marc Weinstein, agrégé de langue et de littérature russe, professeur d'anthropologie littéraire, politique et philosophique à l'université d'Aix-Marseille. Vous, à qui Mandelstam a peut-être, on verra ça ensemble, fourni de quoi élaborer la notion de sacralité non religieuse. Et puis à vous, bien sûr, Jean-Claude Schneider, poète, traducteur notamment de l'allemand, je pense à Trakel, je pense à Celan, je pense à Walser, et traducteur, bien sûr, de Mandelstam, pour qui vous allez jusqu'à apprendre le russe. Et tout commence pour vous, plus ou moins, par ça.
Diese Nacht nicht gut zu machen. Bei euch Licht trotzdem. Sonnen schwarz, die sich entfachen vor Jerusalem. Sonnen gelb, größeres Entsetzen, Schlaf, Eier, Popeye. Helles Judenhaus, sie setzen meine Mutter bei. Sie, die nicht mehr priesterlichen Gnad und Heils beraubt, singen aus der Welt im Lichte eines Weibes.
Cette nuit est irrémédiable, mais chez vous, c'est le jour encore. Aux portes de Jérusalem, c'est un soleil noir qui se lève. Plus terrible est un soleil jaune, d'or, enfant, que je berce d'or. Dans le temple éclairé, les Juifs ont porté en terre ma mère. Les Juifs, privés de sacerdoce et sans le recours de la grâce, ont chanté dans le temple clair pour la dépouille d'une femme. Et sur ma mère a résonné le cœur des voix israélites. Dans mon berceau, à mon réveil, m'éblouissait un noir soleil. C'est la voix du poète Paul Celan qu'on entendait lisant en 1967 un poème qu'il traduisait « Diese Nacht nicht gut zu machen » et que vous traduisez par « Cette nuit est irrémédiable ». Poème tombeau que Mandelstam écrit en 1916, je crois, il a à peu près 25 ans, donc à la mort de sa mère, et qui figure dans le recueil Tristia, paru en 22 à Berlin. Avant d'en venir à ce poème, à proprement parler, Jean-Claude Schneider, qui est Mandelstam à ce moment-là, c'est-à-dire en 1916, au moment où il écrit ce poème-là, quel poète est-il et quelle place est la sienne, si place il a déjà ?
Je pense qu'il est déjà reconnu à l'époque. Il y avait énormément de lectures, une grosse activité qui se passait dans des sortes de clubs ou d'ateliers de poésie où chaque poète venait réciter ce qu'il venait d'écrire. Et Mandelstam était déjà reconnu comme représentant de ce mouvement, l'acméisme, qu'il avait plus ou moins fondé avec Goumiliov et puis Anna Akhmatova, essentiellement.
Mark Weinstein, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce jeune poème, bien que passé par la langue allemande ?
Mais j'y entends peut-être une certaine méfiance du poète à l'égard du soleil jaune. Peut-être on en reparlera si on a le temps. J'ai l'impression que le soleil jaune, le jaune peut-être en général chez Mandelstam, c'est quelque chose dont il faut se défier, surtout lorsqu'il a l'allure, la forme solaire, ça tente à devenir peut-être le soleil des identifications, le soleil de l'identification du mot à la chose, chose dont il faut encore une fois se méfier. Les mots, dit Mandelstam dans De la nature du verbe, le mot doit errer, svobodna blujdat, errer librement autour de la chose, de façon à pouvoir se décaler de la chose, de façon à pouvoir aller librement vers d'autres choses, de façon à pouvoir chanter l'unité du monde. Donc ce soleil jaune dont il faut se méfier, eh bien si on le retourne en quelque sorte, si on l'inverse, ça nous donne tout le monde noir, terrestre, souterrain, qu'il faut aller chercher grâce à la charrue, la poésie, car c'est dans ce tchernazium, la terre noire, n'est-ce pas, de la poésie, que véritablement les mots se mettent à danser, à fluer, à couler les uns vers les autres, et à faire unité dans le poème, de même que les choses font unité dans le monde.
Et à faire éblouissement. La voix qu'on a entendue, c'est celle de Paul Celan, hein, donc du poète, qui en 66, Jean-Claude Schneider, vous offre sa traduction d'un choix de poème de Mandelstam, dans lequel figure celui qu'on vient d'entendre. Et c'est aussi votre rencontre, hein, avec celui pour lequel vous allez apprendre le russe, je le disais tout à l'heure, et que vous allez progressivement traduire jusqu'à la somme que voici aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène inaugurale, comme vous dites, de ce qui vous sidère alors, ou de ce que vous pressentez alors à cette première lecture ?
Eh bien, je m'en souviens parfaitement, d'abord parce que j'étais très jeune et énormément impressionné par Paul Celan. C'était d'ailleurs très émouvant d'entendre sa voix tout à l'heure. Donc, en cette journée-là, il m'a donné deux livres. Son recueil de poèmes, Niemands Rose, dans lequel figure justement ce poème dédié à Mandelstam, qu'il appelle alors son frère Ossip, avec lequel il échange les bras, le gauche, le droit. Donc il m'a donné ce volume et en même temps il m'a donné sa traduction de Mandelstam en me disant qu'il fallait absolument que je lise ce livre. Ce que j'ai fait, j'ai été fasciné tout de suite, ébloui par ces métaphores, ne comprenant sans doute pas ce qui était dit ou pas toujours, mais le ressentant profondément. Et justement je suis content de ce qu'a dit Mark Weinstein tout à l'heure à propos du mot, parce que effectivement le mot est un halo, n'est pas la tâche du traducteur s'en trouve évidemment considérablement compliquée, mais c'est aussi sous l'indication de Paul Celan qui dit très précisément: si tu ne laisses pas à ton poème toute son obscurité native, tu n'as pas écrit de poème. Donc c'est un peu sous cette phrase que j'ai, en pensant à cette phrase, que j'ai essayé de concevoir ma traduction et de garder cette obscurité. Il dit ailleurs dans un autre poème, il dit ne sépare pas le clair et l'obscur, laisse d'ombre assez.
Vous revenez assez longuement, Jean-Claude Schneider, hein, dans le préambule, dans l'introduction à ces œuvres complètes, traduites par vos soins, donc qui viennent de paraître au bruit du temps. Vous revenez longtemps sur cette scène inaugurale, vous revenez aussi sur la traduction que Celan fait de Mandelstam, en l'occurrence en allemand, qui est une version très belle, dites-vous, mais qui désarticule son modèle, hein, d'une certaine façon. C'est bien, au fond, c'est bien Celan qui écrit, en somme. Qu'est-ce qu'il vous reste à vous de cette première voix-là, c'est-à-dire de ce premier passage par la langue de Celan pour accéder à Mandelstam, qu'est-ce qu'il fallait en garder et de quoi fallait-il se débarrasser pour vous mettre à la tâche à votre tour ?
Mon point de vue quand je traduis est de rester aussi près que possible du, non pas du mot à mot, mais de cette résonance dont je parlais tout à l'heure. En revanche, Paul Celan a pris des libertés considérables par rapport au texte. Il me semble que traduisant Mandelstam, il est allé à la conquête en même temps de sa propre écriture. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai traduit et que je lui ai donné mes premières traductions, j'ai été très étonné parce qu'il m'a dit « Mais vous restez très, très près de mon texte, prenez donc beaucoup plus de liberté ». Bon, c'était pas ma manière de faire, évidemment. Mais c'était la sienne. Au point que je peux raconter cette petite anecdote, au point que j'ai fait sur une traduction un contresens évident. Non pas que j'avais pas compris, mais j'ai oublié le texte au moment où j'ai revu ma copie. Et lorsque je lui ai remis ce texte, eh bien, Paul Celan, qui connaissait le français aussi bien que nous, n'a pas réagi. J'en ai conclu qu'il acceptait toutes les déformations que je pouvais faire subir à son texte, et c'était en l'occurrence, j'avais interverti le sujet d'un verbe et son complément d'objet direct.
Cette idée de partir à la conquête de sa propre écriture, Jean-Claude Schneider, lorsqu'on traduit de la poésie, c'est une phrase que vous pourriez faire vôtre ou une phrase dont vous vous méfiez ?
Non, absolument. Dans la mesure où je dis que la poésie, il me semble, ne devrait être traduite que justement par la confrontation de deux écritures poétiques. Rencontre, confrontation, puis sans doute, dans la mesure du possible, osmose. De deux écritures poétiques qui sont déjà ancrées dans deux voies donc différentes.
Ce qui ferait de la traduction un acte poétique, évidemment.
C'est ce qui serait souhaitable. C'est ce qu'on essaie de faire.
Alors, on reviendra bien sûr sur les questions et difficultés nombreuses à traduire les tris et les roulades. D'Ossip Mandelstam, et puis aussi son goût des métaphores, des innombrables sous-entendus, de sens tacite caché, et puis toute cette vitesse, ces crépitements, que ce soit d'ailleurs dans la prose ou dans la poésie. Un mot peut-être sur ce qui lie encore Celan à Mandelstam, donc affaire de destin. Les deux volumes poésie et prose respectent d'une certaine façon la chronologie, donc il y a deux volumes qui séparent bien poésie et prose, mais néanmoins respectant la chronologie, et ce rappel des éditeurs en préambule, Mandelstam, le martyr broyé par le pouvoir stalinien, Mandelstam privé de parole, écrivant, dictant au péril de sa vie, figure du poète assassiné par son siècle, un mythe, une légende et une langue parfois, souvent, recouverte par son destin. Alors, je ne sais pas, je m'adresse peut-être à Emmanuel Laugier, Marc Weinstein. Bon, Marc Weinstein, vous qui avez enseigné en Russie soviétique, je crois, dans les années 80,
À la fin des années 80.
Voilà, une information. C'est ce Mandelstam-là qu'on célèbre tout juste à ce moment-là, ou trop de martyrs dans la réception de Mandelstam à ce moment-là ?
Oui, peut-être un petit peu trop de martyrs et peut-être pas assez de textes. D'ailleurs, l'un des poètes russes qui a participé au numéro d'Europe il y a quelques années le disait. Ce qu'on a peut-être un petit peu trop tendance à faire en Russie, c'est à privilégier les martyrs pour faire perdre un petit peu trop dans le pathos et à négliger les textes. Voilà, donc il me semble qu'il est salutaire aujourd'hui de revenir aux poèmes, de revenir aux textes, de revenir aux traductions.
Alors, ce qui va me permettre une petite parenthèse. Oui, Emmanuel Laugier, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voulais juste ajouter concernant cette martyrologie envers laquelle, d'ailleurs, Ralph Dutli, à qui on doit l'immense biographie...
Traduite au bruit du temps également.
Traduite au bruit du temps, sous le titre de Ossip Mandelstam, Mon fauve, mon temps. Il dit d'emblée, dans les premières pages de ce livre, combien il faut se méfier de la tyrannie de la chronologie. Bien sûr qu'il ne va pas nier son importance, mais voir comment elle s'ouvre, elle se débat à l'intérieur même de la pulsion vitaliste de Mandelstam et que l'on doit lire, évidemment, savoir lire ou percevoir à fleur du texte et des poèmes eux-mêmes. C'est là, je crois, que que l'expérience est la plus bouleversante, en dehors de, évidemment des drames de l'histoire. Il y a une phrase de Pasolini qui est assez magnifique, qui est tirée de description, dont j'ignorais qu'il avait été un lecteur de Mandelstam, mais ce qui est fort dans ce qu'il dit, c'est que alors qu'il aurait pu finalement conduire sa lecture vers cette martyrologie et n'en retenir que cet aspect, il écrit « léger, intelligent, spirituel, élégant, même exquis, gai, sensuel, toujours amoureux, loyal, lucide et heureux, quoique dans les ténèbres de sa névrose et de l'horreur politique. » Et je trouve que par ces quelques lignes, il condense véritablement cette espèce de météore, hein, de quartz brillant, comme disais-je à côté de Mandelstam. Il le fait s'illuminer sous tous ses angles, et je trouve ça magnifique de l'avoir pu décrire ainsi.
Alors, par une pirouette peut-être pas tout à fait honnête, du coup, sur cette question de l'homme biographique, Emmanuel Laugier, malgré tout, qu'est-ce qu'il faudrait en savoir de ce destin et de cette biographie pour le lire ?
Évidemment que les notes qui accompagnent la traduction justement de l'œuvre complète au bruit du temps permettent aussi d'éclairer à certains moments les sous-entendus politiques ou idéologiques auxquels fait face Mandelstam. C'est sûr que par exemple, lorsque on lit Le timbre égyptien, qui paraît en 1929 je crois, et qui est écrit dans l'après-coup de déception de la révolution de 17 et de la guerre civile russe, on ne peut pas évidemment ne pas sentir et la déception de Mandelstam, mais aussi ce qu'il traverse en tant que sujet de la Russie effondrée dans ses famines et dans ses guerres, dans ses exactions. Et évidemment, quand il parle du goût de cuivre qu'il a dans la bouche, qui le conduit presque au goût du sang, on rejoint justement ce soleil jaune dont parlait Marc Vinchen tout à l'heure, et on rejoint également le soufre d'une époque qui va le ronger. Et c'est vrai que ce livre, Le timbre égyptien notamment, est une réponse folle, en même temps de puissance de vie, face à finalement au bruit du siècle, hein, qui va se perpétuer, ou du moins avancer sur lui.
Alors Jean-Claude Schneider, justement, en vous écoutant, s'est emparé d'un texte.
Voilà, je propose de lire un extrait justement de ce timbre égyptien qui évoque très fortement la peur. Je vous lis ce passage. Donc le timbre égyptien, c'est l'histoire d'un personnage à la gogole qui s'appelle Parnok, c'est une journée de son existence à Saint-Pétersbourg entre les deux révolutions.
C'est un texte en prose, hein,
on l'a pas signalé. Occupant la rue au Poix, une foule s'avançait dans un bruissement de prières. Au centre, un espace de forme carrée restait vide. Ce soupirail qui laissait apparaître l'échiquier du pavement avait son usage, son système. Il y avait là 5-6 hommes, comme s'ils étaient les organisateurs de toute la procession. Leurs pas faisaient penser à des officiers d'ordonnance. Au milieu, épaules rembourrées, col couvert de pellicule. La reine de cette ruche étrange était cet être que les aides de camp poussaient prudemment, qu'il dirigeait, vigilant, dont il prenait soin comme d'une perle. Dirait-on qu'il était sans visage ? Non, le corps avait une tête, mais dans une foule, les visages ne comptent pas. Seuls, nuque et oreilles ont leur vie propre. Et cela avançait, épaules, cintre gonflée d'ouate, veston richement semé de pellicules, nuques irritées, oreilles de chien. Ce sont tous des vendeurs de brosses, parvint à se dire Parnok. Ayant pris naissance quelque part entre la rue au Foin et la ruelle de la Farine, dans les ténèbres des drogueries et des tanneries, sauvage pépinière à pellicule, à punaise, à oreilles décollées, ce bizarre remue-ménage propageait nausées et contagion. Il répand d'une odeur d'intestin gonflé, songeait Parnok. Tandis que pour une raison quelconque lui revenait en mémoire l'horrible mot « tripe ». Il eut un léger haut-le-cœur en se souvenant que quelques jours auparavant, dans un magasin, une vieille femme avait devant lui demandé du mou. Mais en fin de compte, la cause de sa nausée était l'ordre effrayant qui tenait la foule sous son empire. Obéissant à leur caution solidaire, tous étaient garants que parviendrait en bonne et due forme au vivier des rives de la Fontanka le cintre pelliqueux. Il aurait suffi que quelqu'un, fût-ce par la plus timide des exclamations, se porte au secours du possesseur de ce calamiteux col, estimé plus cher que la zibeline et la martre, pour qu'il se trouve dans de beaux draps. Suspect, qu'on le déclare hors la loi, le précipite dans le carré laissé vacant. Un vrai tonnelier, là, était à l'œuvre. La peur. Il s'agit d'un lynchage. Il s'agit de quelqu'un qui a dû voler quelque chose et qu'on conduit à la Fontanka pour aller apparemment le noyer. Voilà. Alors, cette atmosphère qui pèse quand même par moments sur le timbre égyptien et qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel Laugier.
Alors qui pèse déjà parce que nous sommes en 28-29. On a évoqué tout à l'heure le moment où Mandelstam, donc là davantage dans les années 10, fréquente les acméistes, enfin fréquente même plus que ça, hein, puisqu'il a même participé à la rédaction de manifestes. Donc je me demandais ce qu'était la langue russe, alors c'est un peu une grosse question, mais ce qu'était la langue russe pour Mandelstam, hein, Dieu sait que la question est débattue à ce moment-là, hein, à l'époque, lui dont la langue particulière déploie quand même, comme vous le dites, hein, Jean-Claude Schneider, un triple héritage russe, bien sûr, mais aussi grec, mais aussi juif. Hein. Quelles sont les questions, au fond, qu'il pose à sa langue, à la langue russe. Alors, Emmanuel Laugier ou Marc Weinstein?
Je vais essayer, c'est Marc Weinstein. Si vous me permettez, je vais revenir un tout petit peu en arrière à propos de... Vous parliez tout à l'heure de la biographie de Mandelstam, puis ensuite vous me ramènerez vers la langue.
Je vous ramène.
Ce que je voulais dire, simplement, oui, n'oubliez pas de me ramener parce que j'ai tendance à me perdre. Non, voilà, ce que je voulais dire à propos de la biographie, c'est qu'il y a un trait, me semble-t-il, et on le sent très très bien dans les mémoires de Nadiejda, donc de sa femme.
À qui on doit, pour grande partie, hein, que ce soit dit quand même, hein, la conservation, la transmission,
sûr,
la publication de l'ensemble de l'œuvre de Mandelstam.
Alors, c'est un trait que je formulerai à l'aide de trois mots, disons. C'est joie, courage, poésie, les trois ne faisant qu'un presque. Et je dirais que dans sa vie quotidienne, dans les grands moments, sans faire de Mandelstam... Un second Jésus-Christ, hein, c'est pas du tout la question, mais bon, dans l'adversité, il faut bien reconnaître qu'il a su rester assez droit, disons. Joie, courage, poésie, et je dirais que ce qui l'a aidé à survivre le temps qu'il a survécu, c'est précisément la poésie, la force du mot, la force du verbe, la force corporelle, charnelle. Charnelle, alors voilà qui nous ramène à l'autre question, la question de la langue. Je pense que Mandelstam entend dans la langue russe, une grande partie de l'histoire européenne et en particulier l'histoire grecque. Peut-être est-il bon ou serait-il bon de rappeler qu'à partir de 1915-1916, Mandelstam en quelque sorte connaît une seconde période créatrice et dans cette pour reprendre un mot de Saint John Perse, je dirais que il y a ce qu'entend ce peut-être même plus que ce qu'entend Mandelstam, ce qu'il fait, ce qu'il agit, ce qu'il pratique, c'est une anabase permanente de la langue russe vers le passé de la culture russe, de la culture européenne, de la culture grecque. Il est très caractéristique que Mandelstam parle de l'hellénisme. L'hellénisme, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'hellénisme, c'est pas une tendance à faire à écrire en grec ou à se passionner pour la culture grecque en tant que telle. C'est le nom de la poésie de Mandelstam à partir de 1915-1916, lorsque deux tendances, je dirais, s'accentuent. La tendance à, sacraliser, inconditionnaliser la sphère domestique pour la sortir de la sphère utilitaire, et deuxième aspect, la tendance à pratiquer la poésie civique ou la poésie politique en tant que effort vers ce qui doit être. Lorsque Mandelstam chante politiquement ou civiquement, c'est non pas, on s'en doute, pour chanter le présent, mais c'est pour chanter le présent futur tel qu'il devrait être. Il y a une permanente assaise, anabase de Mandelstam vers ce qui devrait être, et c'est pour cela que très très précieuse, et chez lui très très riche, très très enfin magnifique, simplement, y compris à entendre dans le rythme et dans la sonorité des mots, très précieuse, et l'image du cheval. Ce cheval qu'on trouve dans la 9e olympique de Pindar, le cheval qui est censé comment dire, diffuser le sens du poème dans le poème, comme le sang un petit peu diffuse l'énergie dans le corps humain, et ce cheval qui est censé, qui est supposé, et dont on espère qu'il propage les forces poétiques dans la cité. Voilà.
Voilà, vous voyez, vous êtes ramené tout seul, Emmanuel Laugier.
Ce que je pourrais dire sur ce rapport à la langue, en général de Mandelstam, à la sienne propre, mais aussi aux langues européennes, et à ce qu'il appelle sa grande Méditerranée, hein, qu'on pourrait pas seulement démarrer, on va dire, avec l'Italie, mais avec tout le bassin méditerranéen jusqu'à l'Arménie et le début du Moyen-Orient, passant évidemment par ces fameuses Hélènes dont il parle. Hein, je trouve que même sans lire le russe, quand on le lit dans les meilleures traductions, il y a chez Mandelstam une sorte de comment dire, de stratification en ondes sonores des différents données de langue qui remontent à la surface et faire comme bruire l'eau, hein, d'un fleuve plutôt que de la cadenasser dans son corps de glace, hein. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que la langue du poème pour Mandelstam et celle du poème en prose également, hein, c'est un acte qui vient ensoleiller quelque chose face à aux rudes conditions climatiques de l'Est qui viennent au contraire paralyser la langue et le sujet.
Pour l'heure, oui. Il était temps, alors en tendant bien l'oreille, on écoute sa voix.
Подонных яблока у деда властелина, и глиняный прекрасный рост, бог млеющей руке стареющего сына, он умирает и поет.
Nom de personne, jamais je ne fus le contemporain. Je n'ai que faire d'un tel honneur. Ô combien me répugne un certain homonyme. Ce n'était pas moi, c'était un autre. Il y a deux pommes somnolentes, le souverain siècle et une belle bouche argileuse. Mais sur le bras languide du fils vieillissant, il se serre agonisant. J'ai avec le siècle soulevé des paupières malades, deux pesantes, somnolentes pommes, et le grondement des fleuves m'a fait le récit, des discordes enflammées des hommes. Il blanchissait voici 100 ans avec ses coussins, léger, escamotable, le lit. Sur lui s'allongeait étrange le corps d'argile, le siècle enterrait sa prime ivresse, au milieu de la grinçante progression du monde, comme elle était légère la couche. Voilà. Si nous ne nous forgeons pas d'autres siècles, durons la durée de celui-là, dans la chambre chaude, dans la tente ou la carriole, le siècle agonique, mais plus tard, deux pommes somnolentes sur l'hostie de corne luisent comme le feu d'un plumage. Nous sommes en 1924, hein, c'est un poème extrait du recueil titré Le Livre de 1928. Avant d'évoquer plus avant ce poème, un mot peut-être, à qui voudra, sur ce qu'on entend dans la scansion, sur ce qu'on entend dans la voix de Mandelstam, dans ce chant, dans cette incantation, dites-vous Marc Weinstein, hein, quand vous parlez de la façon dont Mandelstam dit ses textes, hein, qu'est-ce que vous y percevez? C'est le corps du poète?
C'est le corps social, c'est le corps vocal, c'est le corps poétique, c'est le corps tout entier traversé, sculpté, modelé par le langage. Donc la poésie de Mandelstam en Russie, en tout cas, est l'une de celles qui met le poète et donc le lecteur ou l'auditeur le plus étroitement en contact avec la terre, avec la pierre, avec l'air, et tout cela passe évidemment par le corps.
Des témoins de l'époque parlent de sa manière de lire et disent qu'il lisait la tête en arrière et un peu à la manière d'un chaman, comme une parole magique qu'il lançait au nuage.
Oui, alors si vous me permettez, Manu Farine, je voudrais citer le témoignage de Yelena Tager, qui a assisté à certaines des récitals poétiques de Mandelstam, elle dit la chose suivante. Dans sa stature, sa manière de se tenir, il y avait une grande noblesse, il était comme habité par l'esprit. Alors là, il s'agit d'une soirée de 1932, si je ne m'abuse. Mandelstam, après avoir évoqué son voyage en Arménie, se mit à réciter ses vers. L'effet du poème Pétersbourg fut si fort que les organisateurs de la soirée ne purent empêcher Mandelstam de continuer à réciter ses vers que seuls venaient interrompre les applaudissements. Ça, c'est un premier témoignage qui n'est pas le plus parlant. J'ai commencé par un petit hors-d'œuvre, disons. On peut passer à des plats un petit peu plus épicés. Et elle continue en disant la chose suivante, qui confirme ce que disait Jean-Claude Schneider à l'instant. Donc Mandelstam, tête légèrement relevée, il y a d'ailleurs un poème de la pierre où il se met en scène lui-même, en quelque sorte, où il met en scène le poète peut-être en général, sous la forme, sous le personnage d'un chardonneret, n'est-ce pas, en train de chanter la tête relevée, c'est lui. Donc Hélène Attaguer poursuit son témoignage en disant la chose suivante, je cite, « Sa façon de réciter était plus que rythmée. Il ne scandait pas, ne prononçait pas ses vers. Il chantait comme un chaman possédé par une vision. Il chantait sans retenue, haussant la voix jusqu'au cri sur les syllabes accentuées. Ses vers sonnaient comme une incantation. » Voilà.
Alors il est vrai que
Jean-Claude Schneider.
Il me semble aujourd'hui qu'on ne lirait plus de cette manière-là. En tout cas, pour ma part, je ne le lirais pas comme ça.
Ça veut dire qu'entendre Mandelstam, Jean-Claude Schneider, c'est une dimension dont vous avez pu tenir compte, ou dont vous avez tenu compte dans l'exercice de la traduction?
Pas tellement, mais ce que j'ai cherché toujours à maintenir, c'est le côté abrupt, d'un autre aspect de cette conscience sans doute, c'est le côté abrupt de la parole de Mandelstam. Cette espèce de verticalité de l'énonciation.
Voire une forme de brutalité même,
oui,
parfois.
Oui, bien sûr.
« Je n'ai ni manuscrit, ni carnet, ni archive », écrit Mandelstam dans la quatrième prose. « Je suis le seul en Russie à travailler à la voix hein, ». C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Marc Weinstein. Alors, bon, évidemment, il y a la contrainte politique. Hein, et Mandelstam, à partir des années 20, est un poète, disons, en sursis, puis un poète privé de publication, privé de parole. Mais c'est autre chose qui se joue là, j'imagine, hein, dans ce principe qui est sien de composer de tête.
Oui, certainement. D'ailleurs, il conçoit le poème comme une espèce de musique qui résonne en lui, alors que le premier mot du poème n'a pas encore été prononcé. Le vers vit de l'image interne, ce moule sonore de la forme qui devance l'écriture du poème. Il n'y a encore aucun mot et le poème déjà résonne. C'est elle, l'image interne, qui résonne, elle que l'ouïe du poète a palpée.
Merci. Oui. Emmanuel Laugier.
Oui, l'inflexion de la voix, effectivement, qu'on entend chez Mandelstam, elle est en prise directe avec son poème en train de se faire. Oui, c'est sûr. Il parlait d'ailleurs de... Bon, il en parlait par rapport à Dante, mais c'était aussi un autoportrait. Hein, dans son livre Entretien sur Dante, il parlait des ondes signaux de la nature sensorielle du langage. Hein, donc...
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Mandelstam a multiplié évidemment les séances de lecture publique hein, jusque très tard, hein, et pour cause, hein, pour différentes raisons aussi, parce que c'est au fond c'est tout ce qui lui restait, hein, puisqu'il ne pouvait plus publier, qu'il ne pouvait plus écrire. Et puis cette question de l'écoute, hein, c'est une question qui revient évidemment infiniment et profondément dans l'ensemble de son œuvre. Alors on pense évidemment au bruit du temps, hein, de son siècle, hein, comme il l'évoque, mais ça c'est un premier hein, et long texte en prose écrit durant l'été 1923. Et puis cette idée d'écouter l'ébruissement, d'écouter le bruit du temps, cette question de l'ouïe au fond qui est assez centrale hein, chez Mandelstam, qu'on retrouve partout. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que ça veut dire justement que cette façon de mettre en avant ce sens-là, qui est celui de l'ouïe.
Alors c'est vrai, vous le disiez, le bruit du temps est plein de métaphores auditives, de bruit jusqu'à le froissement du papier, des choses comme ça, beaucoup de bruit. Mais il y a aussi, je pense, dans le style de Mandelstam, non seulement une attention au bruit et une exacerbation de l'écoute, mais aussi une exacerbation de la vue. Et il y a beaucoup
des couleurs en particulier aussi.
Des couleurs et puis beaucoup de scènes saisies sur le vif. Alors, dans le voyage en Arménie, il évoque ces peintres français qui, dit-il, ont amplifié son regard comme une espèce de vasque immense. Et on trouve très souvent cette acuité visuelle dans ces descriptions. Je pense que dans la description que j'ai donnée tout à l'heure du lynchage, on en avait une illustration. J'en donnerai peut-être une autre si c'est possible. Il croise un groupe de sourds et muets dans la rue qui s'entretiennent entre eux. Alors, le passage dit ceci. À cet instant-là, des sourds et muets traversaient la place. Leurs mains tissaient un filet véloce. Ils conversaient. Le plus âgé commandait la navette. Les autres le secondaient. À tout bout de champ, un gamin courait de côté en écartant les doigts comme pour demander qu'on les libère d'un fil venu se mettre en travers et risquant de contrarier le tissage. Ils étaient quatre, mais avaient droit pour eux tous à 5 échevaux. Il y en avait un de trop. Ils parlaient un langage d'hirondelle et de mendiant, et sans cesser de faufiler l'air de leur large piqûre, ils en faisaient une chemise. Tout ça est parfaitement visuel et on a l'impression, on les voit carrément.
Une façon à la fois de déchiffrer, de faire résonner, oui, Emmanuel Logier.
Je réagis juste à ce qu'a lu Jean-Claude, et je ne savais pas qu'il avait choisi ce début d'un des chapitres du timbre égyptien, mais j'y suis particulièrement sensible parce que je voulais justement dire que ce qui est étonnant chez Mandelstam, c'est cette sorte de concaténation permanente qu'il y a entre les divers registres qui sont le sonore, comme on l'a dit, hein, le bruissement, mais aussi ces impacts visuels dont a parlé Jean-Claude, mais aussi, étonnamment, et non pas contradictoirement, ni paradoxalement, mais presque d'un même mouvement, il y a aussi ces moments où quelque chose se tait, où se suspend la parole, et où même il va jusqu'à donner vie à ceux qui n'ont pas de langage. Et c'est ces sourds-muets qui tissent effectivement, à travers leurs gestes, des navettes ultra rapides, finalement, de sens, que l'on ne peut pas figer, ni sceller dans une seule phrase. Et ça, c'est presque autant la métaphore, grande métaphore de l'écriture et du mouvement de l'écriture chez Mandelstam que tout le reste qui passe par effectivement la pulsion du regard et de l'écoute.
Oui, alors si je peux ajouter quelque chose, oui. Quand on parlait du corps tout à l'heure, il aurait peut-être fallu ajouter un adjectif, c'est le corps. En quelque sorte synesthésique, si vous voulez. C'est-à-dire que le corps est profondément, intrinsèquement, ne sépare pas les sensorialités. Et je trouve que c'est particulièrement cela qu'on éprouve à l'écoute ou à la lecture de Mandelstam. C'est ça qui en fait une fête, véritablement, quand on le lit. C'est cette espèce de feu d'artifice des sensations et des significations, les sens, aux deux sens du mot sens, si j'ose dire, le sens en tant que signification et l'essence comme l'essence au pluriel, comme sensorialité au pluriel. Et si vous me permettez, je voudrais lire juste une strophe d'un poème de la fin, 1937, qui dit en mots ce qu'est la vision et qui est déjà tout un programme synesthésique en soi. J'aurais souhaité, plutôt que de lire ma traduction, j'aurais souhaité entendre celle de Jean-Claude Schneider, si c'est possible. Je ne sais pas s'il aura le temps de chercher. C'est le poème qui commence par « Varujonne izrinim uskich os » armé de la vision des droites guêpes. Peut-on traduire comme ça? Je lis... Varujonne izrinim uskich os sasushir, on entend, hein, on entend la langue, la vision devenir audition pratiquement, sasushir os zimnoy, l'axe terrestre, os zimnoy, l'axe terrestre. On est dans une poésie tellurique ici. Tellurique, corporelle, charnelle, synesthésique, c'est une fête de tout le corps social, psychologique, psychique, sensoriel. Я чую всё, чем свидеться пришлось, и вспоминаю наизусть и всуе, и не рисую я, и не пою, и не вожу смычком черноголосым. Я только в жизнь впиваюсь и люблю. Je ne fais que m'enfoncer dans la vie et j'aime завидовать могучим, хитрым осом. Если бы меня когда-нибудь могло заставить сон и смерть минуя, стрекало воздуха и летнее тепло, услышать ось, земную лакс-терестр. Ось, c'est l'axe, et os, оса, c'est la guêpe.
Et c'est aussi, aussi le prénom de Mandelstam, bien sûr.
Absolument, exactement. Oui, merci, Jean-Claude, d'ajouter.
Je peux lire la traduction si,
Oui, je vous en prie.
Armé de la vision des guêpes étroites suçant l'axe terrestre, je sens tout ce qu'il m'a fallu rencontrer et je m'en souviens par cœur et vainement. Moi qui ne dessine pas, ne chante pas, ne dirige pas l'archet à la voix noire, je me contente de boire la vie. J'aime jalouser aux guêpes leur force, leur ruse. Oh, que vienne, et n'importe lequel, un jour où le dard de l'air et la chaleur d'été m'obligeront, évitant sommeil et mort, à l'entendre, axe terrestre. Bien évidemment, le traducteur est là complètement désespéré devant ces sonorités à traduire. Il fait ce qu'il peut.
Ah, c'est une joie aussi, c'est une joie. Pour revenir au poème entendu dans la bouche de Mandelstam hein, tout à l'heure, à cet enregistrement, le poème commençait comme suit, avec ce fameux vers, nom de personne, jamais je ne fus le contemporain. Sans doute un des vers les plus célèbres de Mandelstam, hein, qui a même usé jusqu'à la corde. Hein. Qu'est-ce que ce vers-là, au fond, dirait ? Ce fameux vers tant arraché à son poème hein. Ce poème qui dit aussi « J'ai avec le siècle soulevé des paupières malades ».
Oui, et bon, et ce poème, évidemment, définit toute l'opposition de Mandelstam à son siècle, à cette bête sauvage, comme il l'appelle dans un autre poème. Il faut dire tout de même que dans un poème ultérieur, vers la fin, il dit qu'il a tout de même été contemporain de cette époque. Alors, c'est cette position de révolte. Et c'est en même temps cette révolte qu'il attache à son siècle, bien évidemment.
Marc Weinstein et Emmanuel Laugier.
Oui, je voulais juste ajouter, justement, mais Jean-Claude m'a devancé, mais c'est vrai que le poème dans lequel il dit en 1924 « Nom de personne, jamais je ne fus le contemporain », bon, fait référence à un poème qui s'appelle « Le 1er janvier 1924 » et dont un critique littéraire avait dit qu'il en était, comme Mandelstam, le contemporain. Donc, évidemment, ce critique littéraire qui était à la botte des écrivains prolétariens, Mandelstam ne pouvait évidemment que s'y opposer par ce nom de personne, jamais je ne fus le contemporain. Mais effectivement, Jean-Claude l'a dit, en mai-juin 1932, dans les poèmes non rassemblés en recueil et non publiés, il dira « Il est temps que vous le sachiez, je suis moi aussi un contemporain, un de l'époque des confections moscovites. Regardez mon informe veste et marchez et parlez, je sais, voyez-vous. » Au siècle, essayez donc de m'arracher, je vous mets au défi, vous vous casserez le cou. Et là, évidemment, il y a une hargne et une rage, celle dont on a dit qu'elle était la rage littéraire de Mandelstam, et encore que ce soit un euphémisme d'accrocher cette rage au littéraire. Il faudrait plutôt parler du fatras littéraire, et Mandelstam s'en arrache par cette phrase, effectivement, et c'est bouleversant de voir quelle énergie il a encore à cette époque où il est déjà relégué et persécuté.
Marc Weinstein.
À propos de cette... alors, est-ce une contradiction? Je ne sais pas, mais en tout cas, formellement, ça a l'air d'être une contradiction. D'un côté, Mandelstam nous dit « Je ne suis le contemporain de personne », et puis, 8 ans plus tard, en 1932, donc comme vient de le rappeler Emmanuel, il nous dit « Para vam znat, ya toje savremennik », il est temps pour vous de le savoir. Je suis aussi un contemporain. Il me semble que, alors par-delà ce que Mandelstam vit au jour le jour, historiquement, biographiquement, etc., etc., ce qu'on peut entendre peut-être plus profondément, c'est toute son attitude de poète qui assume, qui prend en charge tout le réel aux conditions de transfiguration poétique, c'est-à-dire avec ce que Mandelstam appelle, je crois, c'est dans l'entretien sur Dante, vers la fin d'entretien sur Dante, je ne me rappelle pas exactement, faudrait vérifier, ce qu'il appelle le gérondif à cheval. Qu'est-ce que c'est que le gérondif à cheval?
Le voyage en Arménie.
C'est la fin du voyage en Arménie. Hein. Le gérondif à cheval, c'est cette sorte de temps latino-russe, si on veut, de mode temporel grammatical latino-russe, qui veut que on chante le temps moins pour ce qu'il est que pour ce qu'il devrait être. Et donc d'un côté on peut dire je ne suis pas votre contemporain parce que je vais vers le devoir être, mais ce n'est pas parce que je vais vers le devoir être qu'il faut m'exclure de ce temps, parce que ce temps, cette terre, ce pays, cette langue, je veux l'assumer aussi. Simplement je ne veux pas l'assumer exactement tel qu'ils sont, et on le comprend.
Alors ça tombe bien, voilà qui nous fait une transition habile, hein, vers un son que vous avez demandé à entendre, Emmanuel Laugier, et ce son, c'est celui-ci. La voix de Lucy Kosian, interprétant Chant d'amour, paru sous le label Okora en 1970. L'Arménie, aussi Mandelstam s'y rend donc avec Nadejda, hein, pour une courte période, disons, de répit, ou en tout cas d'apaisement, hein, alors que l'étau se resserre déjà. C'est même une des raisons pour lesquelles il y va. Mais l'Arménie, c'est aussi un lieu rêvé depuis longtemps, avant qu'il finisse par s'y rendre. Qu'est-ce que Mandelstam en attendait, au fond, de cette Arménie?
L'Arménie, c'est déjà le berceau de la culture à ses yeux. C'est là c'est de là que tout est né, pensait-il, et c'est ce qu'il voulait sans doute retrouver, ce qu'il espère, ce avec quoi il espère renouer un contact.
Emmanuel Laugier.
Oui, je dois la découverte de ce morceau que je trouve bouleversant. Je le signale en passant à Pierre Parlant qui me l'a confié et qui me l'a fait écouter. Et j'ai immédiatement Pierre Parlant que vous avez invité il y a peu, et j'ai immédiatement évidemment trouvé que ce passage, cette complainte d'une mère avec sa litanie rêver l'Arménie après, en plus quand on sait quel génocide de 1 million de morts l'a écrasé, je ne pouvais que penser à Mandelstam, y compris parce que dans ce chant-là, il y a le rêve lui-même presque concentré et contenu que Mandelstam voyait en Arménie. C'est vrai que Jean-Claude l'a rappelé, il y avait eu les séjours en Géorgie dans les années 20 qui le rapprochaient de l'Arménie, et effectivement c'est grâce à Bakounine qu'en 1929 il arrive à faire ce séjour de plusieurs mois en Arménie. C'est effectivement le berceau de l'humanité. On dit que, et c'est la Genèse qui le rappelle, que l'arche de Noé aurait échoué sur le mont Ararat, qu'il culmine à 5165 mètres d'altitude, et que les Arméniens appelaient Massis. Et c'est vrai que c'est pour Mandelstam, hein, la sœur cadette de la terre de Judée. C'est aussi évidemment un entremêlement à la fois de la langue elle-même, du chant qu'on a entendu et de ces architectures primitives et archaïques qui pour lui, j'imagine, représentaient presque la condensation même du poème parfait, hein, c'est-à-dire ce que les choses vues devaient peut-être être dans le poème et exister. Je le dis, c'est une anecdote, mais quand j'ai découvert Mandelstam en 86 grâce à deux professeurs qui en faisaient une lecture dans une bibliothèque municipale, hein, nous avons changé de temps, je n'ai cessé de le lire et c'est un des poètes étrangers que j'ai le plus lu. Et très peu de temps, dans les années 88 ou 89, ou peut-être un peu plus tard, j'ai eu en main Le Voyage en Arménie dans la traduction qu'en avait donné à l'époque André Dubouchet.
Admirable
traduction qu'il a faite avec son fils, d'ailleurs, je le rappelle, Gilles Dubouchet. Hein. Et c'est vrai qu'il y a ces phrases absolument, ces phrases sublimes dont Marc a rappelé, hein, ce fameux gérondif à cheval qui donne toute l'énergie à la langue. Alors je sais pas, je pourrais peut-être vous lire
un extrait, bien sûr. Hein.
Un petit bout donc du chapitre, du début du chapitre qui s'appelle Hatch Tarak dans la traduction de Jean-Claude Schneider, bien évidemment. J'ai eu la chance d'assister au culte que les nuages rendent à l'Ararat. Comme les remous de chute et d'ascension d'une crème qu'on déverse dans un verre de thé rougeâtre où elle tournoie en cumulus bulbeux. Au demeurant, le ciel sur les terres de l'Ararat ne dispense guère de joie au dieu Sabaoth. Une mésange l'a imaginée dans l'esprit de l'athéisme primitif. Étincelant sous la neige, le mont Yamshiklasht, une taupinière qu'un esprit narquois aurait parsemée de dents de pierre, des baraques de chantier numérotées et une boîte à conserve bourrée de gens de passage, tels sont pour vous les environs d'Erevan. Et tout à coup, un violon disloqué en jardins et maisons, fragmenté en dispositifs à étagères, avec épars, gorges, perchoirs, passerelles. Le village d'Achtarak est suspendu au murmure de l'eau, comme à une carcasse en fil de fer. Ses jardins, des paniers de pierre, sont le cadeau suprême dans un concert à bénéfice pour soprano collature. Voilà.
Merci.
Alors Manu Farine, si vous me permettez...
Oui.
Non, mais...
Mais bien sûr, je permets toujours.
Vous permettez toujours, bon. Non, j'aurais aimé lire un tout petit peu, disons, deux extraits de poèmes. Extraits, donc, du cycle sur l'Arménie, du cycle poétique sur l'Arménie. Parce que... alors là encore, on a un phénomène de synesthésie, de vision, d'audition, et peut-être même un petit peu plus... Pourquoi ? Parce que les lettres de l'alphabet arménien ressemblent beaucoup, il le dit Mandelstam quelque part, les lettres de l'alphabet arménien ressemblent beaucoup à des crochets, et ça plaît beaucoup à Mandelstam, puisque la poésie doit aussi, pour saisir le monde, elle doit en quelque sorte l'agresser amicalement. Et voilà, donc je voudrais vous lire en russe, c'est le sixième, je crois, le début du sixième poème du cycle sur l'Arménie, Arushirkami Gasudarstva. Alors, ce qu'on entend. Alors, visuellement, les lettres arméniennes sont des crochets, et Mandelstam a fait en sorte qu'on entende les crochets. C'est ça qui me fascine dans ses poèmes. Il a fait en sorte que ces crochets qu'on voit, on les entende dans la langue. Arushirkami Gasudarstva, Arménia, Hriple Gor, Karujio Zavusha, Arménia. Et ça, c'est le sixième. Et dans un poème légèrement extérieur, me semble-t-il, au cycle sur l'Arménie, il dit « Kalyucha rich araratskai dolino » une langue épineuse de la vallée de l'Ararat, « Dikaya koshka armianska rich » chat sauvage, parler arménien, « Hishny yizik » langue sauvage, rapace, parler rapace, « Garadov glinobitnych » rich goladayushir kirpichei » langue des briques affamées.
c'est magnifique, c'est Emmanuel qui
Emmanuel
parle.
Logis,
je,
oui.
Je précise juste une chose, c'est que Marc vient de convoquer ce cycle de poèmes en 12 poèmes, je crois, et c'est, ce qui est étonnant, c'est que c'est justement les premiers poèmes qu'il réécrit après une période tarie, après le séjour en Arménie, puisque le voyage en Arménie lui-même, qui est en prose, il ne l'écrira que quelques années après, et on sait que à la publication de quelques extraits dans la Pravda, ou je ne sais pas quel journal, à l'époque, il a été totalement assassiné.
Traité d'irrécupérable, oui, c'est ça.
Voilà, d'irrécupérable, d'anti-soviétique, etc. Et là, effectivement, quelques années avant, en 1929, juste après le séjour, il écrit ce cycle de 12 poèmes, et je crois que Nadja en est presque émue aux larmes, tellement. Et ces poèmes condensent tout le voyage en Arménie.
Pardonnez-moi, il faut qu'on quitte l'Arménie. On aurait dû, on aurait pu. J'aurais aimé qu'on parle de Dante, bien sûr, parce que l'entretien sur Dante est tout à fait crucial. On a quand même réussi aussi à passer une heure sans parler de l'épigramme contre Staline, ce qui est quand même tout à fait remarquable. En parlant de Mandelstam, mais hélas, c'est à la fin de cette émission. Jean-Claude Schneider, Emmanuel Logier, Marc Weinstein, merci à tous les trois. Alors c'est presque la fin de cette émission, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à vous, à tous et à toutes.
Pour ma part, j'aimerais bien lire quelques poèmes pour faire entendre de nouveau cette poésie inimitable. Par exemple, un poème assez simple et qui a plu beaucoup. Je me suis lavé de nuit dans la cour. Le firmament luisait d'astres rugueux. Stellaire éclat comme un sel sur la hache. L'eau du fût jusqu'à ras-bord devient glace. Les battants du porche sont verrouillés. Et la terre en conscience est rigoureuse. Où trouver une autre trame plus pure que la vérité de la toile fraîche? Se dissout, scelle dans le tonneau, l'étoile, et l'eau glaciale s'emplit de ténèbres, plus pure est mort, plus salé le malheur, plus véridique et terrible la terre. Poème de 1921.
C'est un poème bouleversant quand on sait aussi l'arrière-plan qu'il a, puisque à cette époque, il apprend surtout l'exécution de son ami Nikolaï Goumiliev, qui est le mari d'Anna Akhmatova, et ce grand poète et aussi théoricien de l'acméisme, et puis également, bon, même s'il n'avait pas la même proximité, la mort de Bloch. Et il est d'autant plus frappant, ce poème aussi, quand on voit qu'il a été traduit également par Philippe Jacotet,
hein,
et René Char même, lui-même l'avait traduit à une époque. Mais c'est vrai qu'il condense à la fois quelque chose de très prosaïque,
quotidien,
une simplicité à ras comme ça, et une ferveur pour les éléments, hein, malgré la dureté qu'il peut y avoir, puisque ça finit quand même sur cette...
Oui.
Il faut vivre, il faut traverser cette âpre terre dans sa dureté.
Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Marc-Antoine Subtil, à France Bleu Provence, à Aix-en-Provence pour le duplex, à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Julie Garot pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci infiniment à Jean-Claude Schneider ici, Emmanuel Logier et Marc Weinstein là-bas. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais d'ici là, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.